BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euronet Plus. Yann Anthony Noguès.
Bonjour et bienvenue à Bruxelles pour ce nouveau numéro de 500 millions d'Européens. Et ce qui devait arriver, arriva. Nos amis Grands-Bretons ont voté ce 23 juin pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Pour en discuter avec nous aujourd'hui, bonjour Guy Verhofstadt.
Bonjour.
Vous êtes eurodéputé belge, président du groupe libéral au Parlement européen et auteur du mal européen chez Plon, un livre que j'ai lu d'ailleurs. Merci. Mais je l'ai lu avant que vous fassiez une réédition sur le Brexit et les autres exits. Donc du coup, ça va être intéressant de vous entendre là-dessus. Pour vous, bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, en deux mots?
Non, j'ai pas... ça pourrait arriver naturellement. Après 40 ans de difficultés, peut-être c'est une bonne chose qu'on a clarifié cela.
Peut-être une bonne chose à clarification pour Guy Verhofstadt. Bonjour Philippe Cordery.
Bonjour.
Vous êtes député, pas eurodéputé, vous êtes député à l'Assemblée nationale au sein de la Commission des Affaires européennes.
Tout à fait.
Député socialiste pour le Benelux et surtout vous êtes franco-britannique.
C'est ça.
Parents français et anglais. Bonne chose ou mauvaise chose pour vous cette sortie? Clarification?
Mauvaise chose parce que quand l'Europe se délite, c'est une mauvaise chose, mais ça peut être l'occasion d'un sursaut si les autres pays de l'Union européenne aujourd'hui prennent leurs responsabilités.
Charles de Marcy est avec nous. Bonjour Charles. De la Fondation Robert Schuman, évidemment, bonne ou mauvaise chose?
Oh, c'est jamais positif. Ça donne surtout raison à Angela Merkel qui est allée manger des frites le 19 février parce qu'après avoir négocié pendant 30 heures avec Cameron et un accord qui n'a absolument pas fait partie de la campagne électorale.
Ah oui, c'était lors d'un sommet européen ici à Bruxelles.
Une question britannique pour les Britanniques, par les Britanniques et pas pour l'Union européenne.
Bon, donc bonne chose, mauvaise chose, mauvaise chose. Jean Quatremer, bonjour.
Bonjour.
Du bloc coulisses de l'Europe et de Libération. Vous avez fait un joli numéro d'ailleurs le jour même du référendum. J'ai pas bien compris, il fallait le renverser. Il y avait le in, le out, etc. Vous êtes renversant, Jean Quatremer.
Je suis renversant.
Bonne chose ou mauvaise chose? D'ailleurs, c'était ici, dans 500 millions d'Européens, que vous avez clamé en premier. Sortez, messieurs les Anglais.
Écoutez, on ne peut pas faire l'Europe avec des gens qui n'ont pas envie de la faire. Il y a un moment ou l'autre, il faut, comme le dit Guy Verhofstadt, il faut clarifier. C'est-à-dire que si demain, même les Hongrois ont envie de partir, mais qu'ils partent, c'est-à-dire on ne peut pas continuer comme ça. C'est un projet qui a été conçu avec cette idée que tout le monde partageait la même vision de l'avenir et que demain, on allait vers des jours radieux. Eh ben, on s'aperçoit que ça n'est pas le cas. Nous avons des pensées différentes et il est temps de mettre le projet sur la table.
Et ben voilà, on en a deux qui sont contents autour de la table. On a deux qui sont moins contents. Le Brexit remet-il en cause le projet européen? Demandez le programme de 500 millions d'Européens pour réagir à chaque 500 ME. Première question pour vous, Guy Verhofstadt. Est-ce que c'est une victoire de la démocratie? Cette sortie du Royaume-Uni, de l'Union européenne, ce référendum?
En tout cas, une consultation populaire, c'est de la démocratie. C'est la démocratie directe. Et ce qui me préoccupe, c'est pas le résultat. Ce qui me préoccupe maintenant, c'est la réaction des leaders politiques européens. Est-ce qu'ils vont saisir cette occasion pour vraiment réformer l'Union européenne, pour en faire une union politique, ce qu'on n'a jamais fait, pour retourner aux idées brillantes des pères fondateurs qui avaient une toute autre idée de l'Europe, de ce que l'Europe est devenue, ou est-ce qu'ils vont, comme ça a été le cas les dernières années, avoir la trouille en disant il faut calmer le jeu, il faut attendre, il faut peut-être même renégocier, hein, certains vont dire ça, avec M. Johnson, qui sera alors peut-être le Premier ministre dans quelques mois.
Et donc c'est Boris ça Johnson, qui... l'ex-maire de Londres, celui qui menait la campagne pour le Brexit.
Donc pour moi, c'est ça qui me préoccupe. Maintenant, il faut saisir cette occasion. C'est le moment ou jamais. Le moment ou jamais d'en finir avec quand même un grand nombre de problèmes au niveau de l'Union européenne.
C'est ce que disent Marine Le Pen en France et Geert Wilders aux Pays-Bas. C'est le moment ou jamais d'en finir aussi, Philippe
Cordery. Il y a une différence, c'est que nous, on veut rester et on veut réformer.
Nous, c'est qui?
Je pense les pro-européens. Les pro-européens en général. Tandis que les nationalistes et populistes veulent se défaire de l'Europe. Ce qui est naturellement une erreur capitale. Parce que les gens, aussi en Grande-Bretagne, n'ont pas voté contre l'Europe. Ils ont voté contre cette Union européenne qui n'est pas capable de gérer la crise des réfugiés, qui n'est pas capable, non, qui le donne à Erdogan en Turquie, la gestion de cette crise, qui n'est pas capable, en fait, de créer des capacités au niveau européen, tant sur la sécurité que la défense. Là se trouve le problème. Donc, il ne faut pas dire, ah oui, les Britanniques votent contre l'Europe, non, contre cette Union européenne. Et donc, dans une certaine mesure, ils n'ont pas tort d'avoir
fait. Ils n'ont pas tort. Philippe Corderie, c'est une erreur historique, selon vous, de la part des Britanniques, de la part de vos compatriotes?
Non, enfin, c'est pas une erreur historique et je comprends ce que dit Guy Verhofstadt. On a un problème aujourd'hui, l'Europe est malade. L'Europe est malade et le constat, il est fait par l'ensemble, dans l'ensemble des pays. Il n'y a pas un pays aujourd'hui dans l'Union européenne où il n'y a pas une montée des populismes. Et donc, il faut comprendre pourquoi l'Europe va mal. Et moi, je pense que l'Europe va mal parce qu'elle n'est pas achevée. Parce qu'on ne peut pas avoir Schengen sans contrôle des frontières. On ne peut pas avoir Schengen sans...
Des frontières extérieures.
On ne peut pas avoir Schengen sans une politique migratoire commune. On ne peut pas avoir l'euro sans une politique fiscale coordonnée. On ne peut pas avoir l'euro sans une politique salariale qui soit un minimum coordonnée aussi. Et donc, je pense que c'est ça, aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'avancer, c'est d'aller jusqu'au bout de cette intégration européenne. Et deuxièmement, c'est d'assumer l'Europe. Parce que à force de faire l'Europe sans l'assumer, bah, les peuples, bah, ils nous suivent
donc
pas.
Donc pour
non
vous,
plus.
Faut aller plus donc loin. Il faut, on n'en prend pas le chemin, genre. Mais il faut, donc faut aller plus loin là.
Non mais j'apprécie parce que comme François Hollande depuis 4 ans n'assume pas l'Europe, on sent une critique interne. Nous sommes à un an de la présidentielle. Ça y est, au sein du PS, ça commence à charcler.
Philippe Corderie qui a travaillé avec François Hollande.
Il assume, il l'a fait.
D'accord, genre. Faut aller plus loin ou pas? Là, qu'est-ce qu'il faut faire là? Honnêtement, ceux qui nous dirigent ici à Bruxelles, ils doivent faire quoi maintenant?
Non, mais
on appuie sur pause, ou au contraire, fast forward.
Le malaise manifesté par les Britanniques n'est pas le malaise manifesté par les autres pays européens. Ce sont des malaises qui sont totalement différents. Les Britanniques trouvent l'Europe ultra réglementaire, pendant que nous, par exemple, les Français, on la trouve ultra libérale. On a réussi à créer un espèce de monstre qui a inventé, je dirais, l'ultra libéralisme réglementaire. On va dire ça comme ça. C'est donc dans un côté, on trouve qu'il n'y a pas suffisamment d'appellations d'origine contrôlée. De l'autre, il y en a trop. Tout le monde peut faire du camembert. Donc, clairement, il faut clarifier les choses. Il ne faut pas faire un saut. Le mot fédéral, moi, je fais attention parce qu'en France, maintenant, quand on dit fédéral, c'est le super state. Je pense qu'il faut plutôt. Voilà, c'est le contraire. C'est-à-dire que pour le
super state, ce qu'en français, pour nos auditeurs et téléspectateurs, Jean-Pierre Tremaire.
Avec mon accent anglais de
première qualité. Le super état.
Non, mais aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est clarifier qui fait quoi et ce qui est contrôlé par qui. Aujourd'hui, par exemple, dans la zone euro, moi je suis désolé, il y a un malaise fondamental. Vous voyez, la Commission et l'Eurogroupe qui font entre eux la politique économique et sociale des gouvernements et c'est contrôlé par aucun parlement. Les citoyens, ils ont soif de contrôle parlementaire. Donnons du contrôle parlementaire. Mais qui ne veut pas? Votre ami François Hollande? Parce que ça réouvrirait les traités. Mais si, il n'a rien proposé. Il parle dans le JDD, mais il ne propose rien aux Allemands. Et donc on a un problème. Il faut aujourd'hui...
François Hollande qui sera en Allemagne la semaine prochaine.
Voilà, il faut aujourd'hui qu'on remette au clair le projet européen, qui fait quoi avec du contrôle démocratique, que les citoyens auront et enfin l'impression de contrôler ce qui se passe.
Le Parlement européen qui veut clairement mettre la main sur les négociations pour la sortie du Royaume-Uni, qui veut être très impliqué dans le processus. Charles de Marseille.
En fait, le risque majeur aujourd'hui, c'est d'être un peu dans la situation des chefs d'État et de gouvernement qui, face à cette montée des populistes, sont le lapin dans les phares d'une voiture. Et qui sont comme ça tétanisés, qui attendent, ça arrive, on sait que ça va arriver, et qui n'arrivent pas à faire un petit saut d'un côté ou d'un autre d'ailleurs. Et après, on peut poser les questions de légitimité démocratique, mais qui n'arrivent pas à faire ce choix et à prendre ce type d'initiative. Et le risque majeur, c'est de se faire une nouvelle fois dicter l'agenda par les Britanniques, parce qu'ils vont attendre octobre pour l'article 50. S'ils l'appliquent, ils ne sont pas encore sortis.
L'article 50 du traité de Lisbonne, qui est pour la première fois, qui ouvre la porte vers la sortie.
Exactement. Et donc de savoir comment est-ce qu'on va négocier. Est-ce qu'on va avoir un calcul qui sera rationnel collectif, et là les chefs d'État et de gouvernement vont avoir une vision commune du projet européen face ou contre les Britanniques, ou alors on aura une vision égoïste où chaque État va regarder sa balance commerciale et se dire « faut pas trop taper dessus parce que ça va nous porter préjudice d'un point de vue économique ».
Surtout la France.
La France qui, par exemple, a une balance commerciale positive avec le Royaume-Uni. Ça n'arrive pas avec l'ensemble des États.
C'est surtout l'Allemagne et les Pays-Bas qui ont une balance super positive.
Oui, mais ça va influencer sur la vision nationale de chaque État.
Justement, les Britanniques. Donc, dans votre livre, vous parlez du Brexit. Après avoir parlé du Grexit, vous parlez du Brexit et des autres exits.
Ouais, c'est ça qui
pour est... éviter cette contagion et cet effet domino, qu'est-ce qu'il faut faire? Taper sur les Britanniques et surtout ne pas leur faire de concessions.
Il faut aller vite. Donc, dire que c'est de la notification de la décision des Britanniques doit être faite, je dirais, dans la prochaine semaine. Mmh. Et pas comme mais Cameron
sera pas le cas.
A...
Ce sera pas le cas.
Mais, oui, mais
juste pour préciser, le conseil... David Cameron, devant le Tenant
State,
a dit
que conseil...
ce n'est pas moi qui vais mener la négociation, ce sera le prochain
mais
Premier
le conseil
ministre.
Européen...
Et or, il ne démissionnera pas avant le mois d'octobre.
Non,
donc, a priori, rien ne se fera avant
mais
le mois d'octobre.
Le Conseil européen ne doit pas accepter ça. C'est nous qui doivent vraiment interpréter les traités. C'est pas ceux qui vont être en dehors. Donc moi je trouve que cette notification,
ce serait ainsi une politique très forte.
Très fort. Et ça il faut faire.
De reprendre l'initiative.
Reprendre l'initiative et dire je m'excuse, Monsieur Cameron est venu, il a dit le résultat ou il a répété les résultats du référendum. Nous on prend ça comme la notification du sorti de la Grande-Bretagne. Et deuxièmement, ce qu'il faut faire, c'est maintenant reconnaître qu'il faut une autre type d'Union européenne. Quel est le problème? Pourquoi on n'est pas capable d'avoir des réponses à tous ces défis, à toutes ces crises? Parce que c'est rester l'Union européenne une confédération d'États-nations gérées par la règle de l'unanimité. Et ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce que si les Allemands ont telle vue sur l'avenir, et les Français une autre vue sur l'avenir, et les Italiens encore une troisième, veulent suivre un troisième chemin, rien ne se passe. Parce que les États qui gèrent pour le moment, les 28 États, chefs d'État et de gouvernement, gérés par la règle de l'unanimité, ça ne peut pas fonctionner. Donc il faut créer des capacités au niveau européen. C'est-à-dire, il faut revenir aux idées de Delors, des pères fondateurs, de Schuman, de monnaie, c'est à ça qu'il faut revenir. Parce qu'ils savaient déjà, dans les années 50, qu'il fallait une union politique, qu'il fallait, par exemple, aussi avoir deux types d'adhésion à l'Union européenne. Ils avaient déjà prévu d'avoir d'être membre associé. Ça pourrait être le cas. Maintenant, on a perdu 40 ans dans cette, dans
là,
cette
c'est
bataille.
C'est l'occasion. C'est l'histoire de rien, on a perdu 40 ans.
Et je crois qu'il ne faut pas opposer les peuples à l'avancée de l'Europe, parce que c'est pas vrai que les peuples ne veulent pas d'Europe. Et on a trop tendance dans le débat à dire il faut faire moins d'Europe parce qu'il faut que les peuples nous suivent. Mais les peuples nous suivront à partir du moment où on a une vision, où on a une cohérence sur la politique et une réorientation des politiques aussi, parce que l'ultralibéralisme qui a été mené pendant un certain nombre d'années au niveau européen a eu des conséquences bien sûr sur l'état aujourd'hui de l'économie européenne. Et donc il faut réorienter.
J'ai dit que vous étiez franco-britannique, mais vous êtes socialiste. Or, c'est quand même un coup de canif aussi dans le pacte libéral européen, ce que les Français qualifient d'ultralibéralisse européen, parce que la République tchèque, les Pays-Bas, etc., qui avant avaient comme allié la Grande-Bretagne, eh bien, ils se retrouvent avec le Royaume-Uni en moins autour de la table, autour de la table du Conseil pour promouvoir les idées libérales.
Ben, peut-être qu'on va pouvoir enfin avancer dans cette Europe. Maintenant, on a déjà commencé à avancer. On a le plan Juncker, on a des investissements. Bon, y a des choses qui ont été faites quand même depuis 3-4 ans, l'union bancaire. Donc on a commencé à avancer, il faut aller plus loin. Ouais, mais, et il faut le faire au niveau de
l'union
de la
bancaire.
Zone euro.
Ça a pris 6-7 ans après la crise financière. Les Américains, avec leur État fédéral, le mot qu'on ne peut pas utiliser, ils ont nettoyé les banques en 9 mois. Ils ont pris la décision et ils ont les institutions pour le faire. Nous, il faut attendre 6 ans avant que les Allemands soient d'accord avec l'Union bancaire.
Ce sont les Américains qui ont réussi à faire changer les Suisses, alors que nous, les Européens, on n'a pas réussi à le faire nous-mêmes.
Exactement, mais c'est un exemple qui démontre qu'un État fédéral ou l'Europe fédérale, il ne faut pas avoir peur de ça. L'État le plus puissant au niveau mondial, c'est un État fédéral. Autre exemple, l'État qui ne fonctionne pas mal en Europe, c'est l'Allemagne. C'est un État fédéral. Un État fédéral, il ne faut rien avoir peur de ça. C'est l'efficacité.
Guy Verhofstadt, je sais que vous êtes au four et au moulin là ce week-end et que vous participez à beaucoup de négociations et de discussions. Vous avez encore quelques minutes pour discuter avec nous. Vous partez, vous nous faites un Geekzit.
Je fais un Vexit.
Vous faites un Vexit. Bon bah Verhofstadt. Guy Verhofstadt était avec nous. Le mal européen chez Plon. Philippe Corderie, Jean Quatremer et Charles de Marcy restent avec nous pour poursuivre cette discussion autour du Brexit. À tout de suite.
BFM Business, 500 millions d'Européens depuis le Parlement européen à Bruxelles.
Depuis le Parlement européen à Bruxelles, ou bientôt, eh bien le Union Jack, le drapeau européen dont le mât trône fièrement, c'est le premier mât en fait devant le Parlement européen, eh bien il va être abattu. Timber, bientôt, parce que le Union Jack va disparaître. Il y a aussi 73 députés britanniques qui vont faire leur valise, dont Nigel Farage, le patron du UKIP, le UK Independent Party, toujours avec nous. Il ne peut pas s'empêcher de parler, c'est Jean Quatremer de Libération et du bloc coulisses de Bruxelles. Philippe Corderie, député à l'Assemblée nationale, membre de la Commission des affaires européennes. Et Philippe, vous êtes franco-britannique et puis socialiste aussi à vos heures. Charles de Marcy de la Fondation Robert Schuman, le directeur du bureau de la Fondation Robert Schuman ici. Je pense que les auditeurs et téléspectateurs de cette émission le connaissent bien. Tiens d'ailleurs, Charles, honnêtement, c'est quand même la bombe, le pétard qui lui a explosé en plein visage, David Cameron, ce référendum. On rappelle, il avait fait ça pour se faire élire, pour tranquilliser un petit peu la frange droite du Parti conservateur, et boum, il perd ce référendum.
23 janvier 2013, à Bloomberg, il annonce que s'il est réélu, alors qu'il est vraiment en ballottage défavorable, il proposera un référendum. En mai l'année dernière, il est réélu et on se retrouve jeudi à avoir un référendum pour qu'il puisse sortir. Donc oui, c'est le pompier pyromane qui se retrouve en plus à avoir imposé à ses partenaires européens une nouvelle crise qui n'était pas nécessaire. Le Royaume-Uni, c'est 5% de taux de chômage. Après, il y a des questions structurelles sur comment est-ce qu'il le gère, sur la pauvreté endémique au Royaume-Uni, une question du déclassement, et on a vu ça pendant la campagne. Et il a imposé en fait une sorte de chantage, de marchandage avec les chefs d'État et d'Européens qui sont allés très loin en février dans ce qu'ils ont réussi à négocier, qui pour le coup auraient pu détricoter, donc qui restent ou qui sortent. C'était dans les deux cas de figure, l'Union Européenne quelque part perd. C'est pas du tout un gagnant ou un perdant, c'est beaucoup plus subtil que ça à mon sens. Et puis ça montre aussi la difficulté pour Bruxelles de réagir par rapport à ces échéances nationales électorales. Et donc là, typiquement, le référendum, c'est une sorte d'arme d'enlisement massif, parce qu'on est tétanisé en attendant que ça arrive. Et donc
l'arme d'enlisement massif qui lui a explosé au visage. Juste Philippe, finalement, parce que Charles parlait du pompier pyromane, je voudrais citer Jacques Delors qui disait que ce qui manque à l'Europe, ce ne sont pas les pompiers, parce que des pompiers, il y en a toujours dès qu'il y a une crise, mais ce sont des architectes. Là, on avait en l'occurrence un pompier pyromane. L'architecture de l'Union européenne, qui peut la dessiner maintenant? Un groupe réduit de pays, au niveau des pays fondateurs, même si dedans, il y a quand même aussi il y a les Pays-Bas qui sont compliqués, etc. Ou bien les 19 de la zone euro?
Alors, il faut proposer à tous les 19 de la zone euro, puisqu'on a la monnaie commune, et c'est autour de cette monnaie commune qu'on doit bâtir. Mais il faut que l'initiative, elle soit prise il faut que la France prenne l'initiative, sans doute avec les Italiens, avec les Allemands, les grands pays fondateurs prennent l'initiative claire pour aller jusqu'au bout de la zone euro. Et après, il faudra poser à chaque pays de la zone euro la question de savoir s'il veut aller jusqu'au bout ou pas. Je pense qu'on ne peut plus attendre maintenant. On ne peut plus attendre que tout le monde soit prêt pour avancer. Il faut se fixer les objectifs et aller beaucoup plus loin. Et peut-être que d'autres pays rejoindront, puisqu'on a vu que la responsabilité de Cameron, c'est de sortir de l'Europe. Mais c'est peut-être aussi la fin du Royaume-Uni avec ce qui se passe en Écosse, en Irlande du Nord. Et donc peut-être qu'on aura aussi des nouveaux pays qui rejoindront l'Union européenne.
5 millions d'Écossais qui pourraient revenir, Jean.
Non, l'effet sur la Grande-Bretagne de ce référendum est absolument dramatique, parce qu'on dit que c'est une crise européenne. C'est vrai, c'est une crise européenne. Mais c'est principalement une crise britannique. Encore une fois, depuis le résultat du référendum connu, tout le monde me pose la question, oui, c'est une nouvelle crise pour l'Europe. Je dis, mais attendez, ça peut devenir une crise européenne. Ça ne l'est pas encore, parce que la Grande-Bretagne vient de voler en éclats sous nos yeux. L'Écosse et l'Irlande du Nord ont voté massivement pour rester, le Pays de Galles et l'Angleterre pour partir. À l'intérieur, les grandes villes ont voté pour rester pendant que les campagnes votaient pour partir. Les plus jeunes ont voté massivement pour rester dans l'Union européenne alors que les plus vieux votaient pour partir. Les diplômés votaient pour rester pendant que les non-diplômés... Enfin, ça manifeste surtout un éclatement de la Grande-Bretagne. Ce qui apparaît aujourd'hui, c'est qu'on voit les chiffres agrégés de la Grande-Bretagne qui sont des chiffres extrêmement positifs. Donc on a l'impression qu'il n'y a pas de chômage, que tout va bien, la city superpuissante, on voit des types en Rolls, des prix absolument hallucinants à Londres. Mais la réalité de ce pays, c'est qu'en réalité, vous avez plein de pays qui sont totalement abandonnés. Et c'est ça que ça manifeste. Donc, quand on vient me dire, ouais, il y a une crise de l'Europe et tout ça, je dis, mais attendez, regardez ce que c'est que la Grande-Bretagne. En réalité, c'est votre pays qui s'est effondré sous vos yeux. Et ce que ça montre aussi, le référendum, à quel point c'est une arme de destruction massive, mais pas seulement vis-à-vis des Européens, mais à l'intérieur du pays, c'est qu'en Grande-Bretagne, c'est une démocratie parlementaire. Depuis toujours, il n'y a jamais eu de référendum, sauf en 75, effectivement. Mais là, ce référendum, ce oui-non, cet affrontement, front contre front, dans un pays qui est composé de plusieurs nations, de classes sociales extrêmement stratifiées, on a toujours évité ce genre de choses. C'est tout un système parlementaire extrêmement bien mis en place. Et tout ça vient d'exploser en plein vol. Moi, je suis très inquiet pour l'avenir même du pays.
Et un point complémentaire, Charles, c'est que ça a complètement cassé l'image collective des partis politiques. Parce que entre eux, ils étaient complètement fractionnés. D'accord. Et donc, pour l'électeur moyen, déjà, il croit plus. Il se dit droite-gauche, quelque part, c'est un peu pareil. On se retrouve à voir Farage avec le leader des conservateurs qui ont le même discours, ce qui pose quand même des problèmes. Il y a aussi la même chose de l'autre côté, où c'était aussi très partagé. Et donc là, on se retrouve, si moi, je suis électeur britannique, je regarde ça en me disant, mais c'est en train
parti,
de s'effondrer sous nos yeux.
Parti qui existe,
je crois.
C'est UKIP, c'est le parti de Nigel Farage.
Oui, mais sans plan B. D'ailleurs, toute la campagne n'a jamais porté sur un plan B, ni sur discuter ce qui avait été validé et poussé par Cameron ici en février.
Non, parce que le plan B, c'était l'envisager, et donc, que ce soit Bruxelles ou autre, il ne voulait pas envisager.
Oui, mais même ceux qui partent, Farage, il a toujours dit, si on part, ce qui est après, ce n'est pas mon problème, je veux gagner le référendum.
Philippe Corderie, attention, question savonnette. Le problème, quand on voit la campagne présidentielle l'année prochaine, certains partis, dont le Front National, vont proposer un Frexit ou un Frexit. Je ne sais pas si on s'est déjà mis d'accord sur le terme. Comment peut se positionner le Parti Socialiste par rapport à ça? Est-ce que, sachant que c'est une arme de destruction massive, mais d'un autre côté, vous êtes des démocrates. Si les gens voulaient partir, ils devraient pouvoir partir. Comment vous allez vous positionner?
Bon, déjà, je pense qu'on n'aura pas besoin de référendum, puisque la campagne présidentielle va, je pense, se jouer beaucoup sur l'avenir de l'Europe, sur les propositions qui devront être faites d'ici là, sur du concret.
Ou sur un discours du 14 juillet,
Non, il y a des choses très claires qui sont en train
de se travailler. En promettant de parler d'Europe à la rentrée, ce qu'il n'a jamais fait.
Et puis en soutenant l'Union économique et monétaire, en soutenant des choses, en annonçant des choses, mais sans les proposer. Il n'y a pas de texte après sur lequel on puisse travailler ou s'appuyer.
Oui, enfin, je vous rappelle qu'il l'a annoncé au mois de juillet, que les groupes se sont mis au travail, et puis qu'il y a eu les attentats après derrière. Et donc, c'est vrai que passer sur un autre sujet. Mais ça n'empêche qu'il y a un travail qui a été fait entre la France et l'Allemagne sur l'approfondissement de la zone euro, qu'il y a un travail aussi qui est fait sur l'approfondissement d'une zone de sécurité. Et c'est ça qui doit être les fondements de cette nouvelle Europe que nous devons reconstruire.
Jean ?
Moi, j'ai un doute concernant l'engagement européen de François Hollande. Pourquoi ? Parce que on est à un an de la présidentielle, c'est un sujet qui est extrêmement explosif. François Hollande se comporte toujours à propos de l'Europe comme le premier secrétaire du Parti socialiste français qu'il a été, c'est-à-dire la synthèse. Il a jamais réglé la fracture interne au PS datant de 2005. Or, il aurait dû trancher, notamment environ Fabius. Fabius, aujourd'hui président du Conseil constitutionnel, après avoir été ministre des Affaires étrangères.
Un ministre très européen,
pas très européen. On l'a jamais vu. Il faut arrêter quand même. Non, il faut arrêter. Fabius n'était pas un ministre des Affaires étrangères européen. Il a amené rien du tout. Il a fait sa COP21. Maintenant, il est président. Alors ça, je vous laisserai pas dire ça. C'est comme les nécrologies où d'un seul coup vous mourrez et du jour au lendemain vous devenez une espèce de héros. Laurent Fabius n'a jamais été un ministre européen. Et donc François Hollande, depuis 4 ans, nous dit attendez, vous allez voir ce que vous allez voir. Je vais proposer, parce que vous citez le mois de juillet 2015 où il avait annoncé des initiatives qu'il a annoncées dans le journal du dimanche. Hein, je vous le rappelle.
Et après
dans le discours du 14 juillet. Il avait fait le même coup au printemps 2013, au plus fort de la crise de la zone euro. Il avait dit, vous allez voir ce que vous allez voir, à la rentrée, je vais annoncer des choses. Là, il n'y a pas eu des attentats. Il n'a rien annoncé.
Quand même et simplement, ce moi, qui a été fait non, depuis 2012.
Oui, non, mais attendez, ça, simplement, voilà. C'est que moi, du côté des Allemands, parce qu'il se trouve que je vois aussi pas mal les Allemands disent, on attend les Français, on les a jamais vus. Et les Français, c'est que de la gueule. Ils vont faire des réformes, regardez la moitié de la France est bloquée sur la loi El Khomri. Vous n'êtes même pas capable de mener à bien des réformes dans votre pays et vous voulez réformer l'Europe, vous voulez que l'Allemagne soit solidaire de la France du point de vue financier. Je veux dire qu'il ne nous croit plus.
Tant qu'on ne sera pas exemplaire, on n'aura pas cette force de proposition.
Il nous reste 1 minute 30 avant le journal. Philippe Corderie va nous dire ce que la France a fait depuis 2012. À mon avis, on a le temps.
Non, mais depuis 2012, en matière européenne, il y a quand même une réorientation qui a été lancée, notamment par le plan Juncker, qui est quand même une idée française à la base, sur la garantie jeunesse, sur l'union bancaire. Ce sont des idées que la France a portées. Et donc aujourd'hui, l'Europe n'est plus ce qu'elle était en 2012. Donc il y a des choses qui ont été faites. Et aujourd'hui, la France a fait des propositions au mois de juillet. La France et l'Allemagne doivent en discuter. Mais il faut que l'Allemagne aussi accepte d'aller plus loin dans la coordination des politiques économiques. Et c'est ça aussi l'enjeu de ces prochains jours, prochaines semaines.
Mais on attend ce travail de conviction. Hein.
Il est fait. Et il est fait depuis quelques mois déjà.
Voilà, le travail de conviction de François Hollande, il va être fait, selon Philippe Corderie. Oui, Charles oui. de Marcy, Philippe Corderie, Jean Quatremer, vous restez avec nous. Juste après le journal, c'est Nick Hurst de Politico qui va nous rejoindre. Il va nous expliquer concrètement comment le Royaume-Uni va sortir de l'Union européenne. Nick Hurst, ça sent grand breton, ça, non ? Et puis ensuite, Eric Scholl aussi sera avec nous de Courrier International. À tout de suite.
BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euranet Plus, Yann-Anthony Noguès.
Merci de nous retrouver pour cette deuxième partie de 500 millions d'Européens. Près de 52% des Britanniques ont voté pour la sortie de leur pays de l'Union Européenne. C'était jeudi. Encore jeudi soir, les Bruxellois, les eurocrates, les responsables des institutions européennes étaient assez confiants. Ils disaient, oui, les marchés anticipent pas trop, la livre sterling ne s'écroule pas, et puis les Grands-Bretons sont conservateurs, et ils vont faire le bon choix une fois dans l'isoloir. Ça a été la douche froide, hein, vendredi matin. On se dirige vers une session extraordinaire du Parlement européen mardi, un sommet européen mardi et mercredi en format A28 et aussi en format A27. En mettant déjà les Britanniques à l'écart. Toujours avec nous, Philippe Cordery, député socialiste à l'Assemblée nationale, membre de la Commission des affaires européennes. Et puis vous êtes franco-britannique, on l'a dit, Jean Quatremer de Libération et du blog Coulisses de Bruxelles. Il pourrait avoir un humour, somme toute, britannique aussi. Et puis Charles de Marcy de la Fondation Robert Schuman. Alors attention, il y en a un, il a fait le boulot qu'à moitié jusqu'ici. Il s'appelle Nick Hurst. Bonjour Nick.
Bonjour.
Vous êtes de Politico pour votre chronique sur les coulisses de l'Europe. Vous nous aviez dit quand vous étiez venu dans cette émission il y a quelques semaines que vous étiez moitié britannique, moitié corse. Donc vous êtes double insulaire. Ça y est, vous avez une île qui est sortie. L'autre aussi va demander l'indépendance bientôt ou pas?
Je ne pense pas, sauf s'il y a un Frankzit
bientôt, le Corkzit.
Un Frankzit et la Corse demandera le rattachement
à l'Union européenne.
À l'Union européenne en même temps que l'Écosse et l'Irlande du Nord.
Vous voyez, ça peut être pas mal.
Ah non, ça va être.
Vous allez nous parler de quoi, Nick, aujourd'hui?
Mais je vais vous parler de ce qui se va passer maintenant, qu'il y a eu le vote, ouais. Ce qui va se passer dans les jours, les semaines, les mois à venir.
D'accord, donc
parce que
les années.
Hein. Il y a une bonne nouvelle. Il y a un article 50 qui gère la procédure, les négociations.
Ouais.
Il y a une mauvaise nouvelle. Les eurosceptiques en Angleterre, ils ont dit, on s'en fout, on va faire ça à notre manière, comme on veut.
Ouais.
Ce qui suggère qu'il y aura pendant les mois à venir pas mal de disputes et de négociations dures ici à Bruxelles.
On compte sur vous pour nous éclairer. Puis avec Eric Scholl de Courrier International, on va voir ce qu'a dit la presse britannique au lendemain de ce résultat historique. Dans le bon ou dans le mauvais sens, chacun voit. Et puis on va également aller en Italie, on va aller aux États-Unis et en Suisse. Demandez le programme de 500 millions d'Européens après le Brexit pour réagir sur Twitter, hashtag 500ME.
BFM Business, avec 500 millions d'Européens, pénétrer dans les coulisses de l'Europe.
Nous allons pénétrer dans les coulisses de l'Europe avec Nick Hurst. Bon, allez Nick, comment le Royaume-Uni va-t-il sortir concrètement de l'Union Européenne?
Mais il y a un article 50 dans les traités. Cet article 50 prévoit qu'un État membre qui veut quitter l'Union Européenne peut notifier cette intention à l'Union Européenne et qu'ensuite des négociations s'enchaînent. Pour les Anglais, il y a un problème, c'est que ces négociations sont limitées à 2 ans. Sauf un accord entre tous les États membres pour le rendre plus long, après 2 ans, s'il y a un accord ou pas, cet État membre quitte l'Union européenne. Et le problème pour les Anglais,
comme un
les
État
Britanniques,
tiers, et ils deviennent comme, j'en sais rien, le Canada.
Voilà. Si et le problème pour les Britanniques, c'est que tout le monde dit que 2 ans, c'est pas du tout assez pour négocier les accords complexes, compliqués, disputés, dont a besoin la Grande-Bretagne après un Brexit. Donc, qu'en disent les eurosceptiques? Ils disent, on peut faire ça de notre manière. D'ailleurs, on va faire ça de notre manière. On va négocier informellement avant de déclencher l'article 50. Comme ça, on arrive avec un accord. On va savoir très bien ce qui va se passer. Il y aura les Britanniques qui vivent à l'étranger qui vont savoir, les Européens qui vivent en Grande-Bretagne. Le problème avec ça, c'est que les Européens, en ayant été traités de négociateurs derrière les portes, de deal makers,
de négociants en douce,
de négociateurs en douce pendant toute la campagne, n'ont pas très envie de passer 2 ans de négociants en douce avec les Britanniques.
Il y a quand même des États européens qui ont suggéré de... on en a parlé, et puis pas que des États, il y a aussi des gens autour de la table qui disaient il faut punir le Royaume-Uni, il faut être dur avec eux, il faut que ce soit douloureux pour pas donner envie aux autres. Ouais. Est-ce que, à votre avis, ça, ce serait un facteur important dans la négociation?
Mais extrêmement, et le problème, c'est que les plans des eurosceptiques ne feront que accentuer cette attitude envers la Grande-Bretagne. Un autre plan des eurosceptiques, c'est d'introduire législation qui immédiatement limiterait la possibilité des Européens de se déplacer en Grande-Bretagne ou par exemple de limiter les pouvoirs de la Cour de justice, ce qui est un énorme problème parce que le droit européen est toujours en place en Grande-Bretagne. Un geste comme ça serait non seulement probablement illégal, mais d'autre côté ne fera que enrager tous les partenaires ici à Bruxelles qui sont clés, que leur bonne volonté est absolument clé pour le succès de ce Brexit.
Juste une petite question, une dernière question là-dessus, Nick. Imaginons, bon, là, visiblement, ils vont jouer la montre, mais s'ils déclenchent cet article 50, est-ce que éventuellement ils peuvent revenir dessus, ou bien une fois que l'article 50 est sur donc la sortie d'un État membre de l'Union européenne est déclenché, c'est fini?
Ça, c'est une question passionnée pour les vrais juristes et les philosophes du droit. Mais le traité est silencieux sur cette question. C'est-à-dire qu'en théorie, ils pourraient au moins argumenter qu'ils peuvent le faire. C'est-à-dire, on a changé d'avis, on a déclenché l'article 50, on va en arrière. Le problème, c'est qu'on ne sait pas. À la fin, s'ils font ça, ce sera la Cour de justice européenne qui aura à trancher. Et beaucoup d'incertitudes. Qui sait ce que c'est 12, ce que c'est 27, 28, le juge britannique, est-ce qu'il participerait ou pas? On ne sait pas.
Jean, est-ce qu'il pourrait nous faire, c'est quand même des sacrés négociateurs, hein, les Anglais, est-ce qu'il pourrait nous faire ce coup-là en disant, ah, on déclenche l'article 50, ils mettent tout le monde sous pression, ils obtiennent des choses éventuellement, ils négocient, et puis à la fin, ils disent, mais comme ça, en fait, ça nous va.
C'est qu'en fait, Boris Johnson ou je ne sais pas quel conservateur qui succédera à David Cameron pourrait effectivement être tenté d'aller voir les capitales européennes les unes après les autres pour essayer de négocier des deals favorables. Alors, il commencerait par la Finlande, où les Finlandais sont plutôt pro-britanniques, les Néerlandais, les Allemands, puis les Français. Et ensuite, il arriverait à Bruxelles en Conseil européen, en disant, mais écoutez, regardez, on m'a donné ça et maintenant j'enclenche la procédure article 50. Là, il faudra que les Européens
ne se laissent... quoi? Ils voudraient quoi, par exemple?
Mais par exemple, c'est la question de l'accès au marché unique. Parce que, les Britanniques, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Les Britanniques, leur idée, c'est de divorcer et de pouvoir continuer à venir dans la maison commune et à coucher avec madame. Voilà, c'est ça leur but. Mais ne pas participer aux charges du ménage, ne pas avoir à nettoyer la cuisine, partir en laissant la vaisselle dans l'évier.
En fait, ils ont tout compris.
Oui, c'est exactement ça qu'ils veulent. Alors le problème, c'est est-ce que madame, c'est-à-dire donc l'Union européenne, est-ce que madame va être assez stupide pour accepter effectivement de se faire maltraiter ainsi par monsieur qui s'en va, qui a décidé d'aller vivre sa vie avec madame Commonwealth, ou alors est-ce qu'on va se montrer dur et la jouer violente? J'espère que les Européens seront assez intelligents pour jouer violente. Et pourquoi on va la jouer violente? Je pense vraiment pas pour des questions politiques européennes, mais pour des questions de politique intérieure. Parce que plus on se montrera gentil et compréhensif à l'égard de la Grande-Bretagne, plus ça va donner des arguments à Marine Le Pen ou à Geert Wilders ou à Beppe Grillo en disant, bah regardez, au fond, on peut faire la même chose. Regardez à quel point on est gentil avec ces Britanniques. Donc on sera gentil avec nous.
Marine Le Pen, j'ai pas besoin de mettre de sous-titres, hein, mais Geert Wilders, c'est le parti de la liberté aux Pays-Bas. Et puis Beppe Grillo, c'est l'humoriste, le mouvement 5 étoiles. Philippe Cordery, vous êtes d'accord avec cette image employée par Jean Quatremer du mari qui finalement, il veut que les bons côtés, quoi.
Bah, ça a été la position des Britanniques depuis quelques années, hein, donc voilà. c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils voudront. Mais c'est pour ça qu'il faut être très ferme. Et les autorités françaises et allemandes l'ont déjà été. Hein,
elles l'ont dit.
Dès aujourd'hui, et on continuera dans cette voie. Il y a des traités avec des règles. Les règles s'appliqueront à ceux qui sont dans l'Union européenne. Après, rien ne les empêche d'aller dans la ELE ou dans une zone de libre échange plus large.
C'est l'accord européen de libre échange.
Voilà. Et ça, on en aura besoin. On va pas les exclure du banc des nations. C'est pas ça. Mais ils ne seront plus dans l'Union
européenne. Pourquoi pas, cher Philippe?
Charles, cette stratégie du pire et de tout faire pour dépasser les règles juridiques, j'y crois moyennement parce que c'est quand même un état de droit. Ils sont encore dans l'Union européenne, hein, ils ne sont pas partis. Tant qu'ils n'ont pas actionné, il n'y a même pas ce processus qui est lancé. Donc là, il y a un vrai choix stratégique. Et ce que David Cameron a annoncé vendredi matin, c'est exactement ça. Je ne vais pas appuyer sur le bouton, ce sera mon successeur de le faire, mais je reste ici pour les affaires courantes.
Sachant que déjà, pour la négociation du divorce. pour la négociation. D'ailleurs, ce serait bien que les Anglais, ils sortent de l'euro.
Bah oui, parce qu'après, c'est contre nous.
Ils ne sortent pas du bon endroit, en fait. Bref. Non, mais c'est ça, c'est quelque part.
C'est posé comme image, mon cher Yann Anthony.
La revue de presse européenne.
BFM Business, 500 millions d'Européens, la revue de presse.
Éric Scholl nous a rejoint. Bonjour Éric.
Bonjour Yann Antonio.
Le patron de la rédaction de Courrier International en ligne depuis la rédaction. Évidemment, on parle Brexit hein, avec vous. Le ton monte au Royaume-Uni. On s'en va, la joie du Daily Mail.
Oui, le tabloïd, hein, le Daily Mail, qui avait clairement affiché ses positions eurosceptiques, alors a fait sa une avec la photo de Nigel Farage, le leader hein, de UKIP, le parti indépendantiste, et on le voit exulter. Alors le journal écrit, après 43 ans, le Royaume-Uni se libère des chaînes de l'Europe. Et le journal parle d'un tremblement de terre politique, d'une nouvelle aube, et même du jour où le monde a changé.
Ouais, c'est un sacré personnage, hein, ce Nigel Farage. Et puis, bon, il y avait celle du Sun hein, qui avait appelé, finalement, avec un jeu de mots, à sortir de l'Union européenne.
Oui, vous savez, le Sun, c'est ce journal qui fait, bon, qui d'abord, c'est le premier journal le plus lu en Grande-Bretagne et qui avait fait déjà un premier jeu de mots pour en appelant les lecteurs à voter pour le Brexit avec ce Believe in Britain, entre un mélange entre Believe, croire et Leave, quitter. Eh bien, rebelote au lendemain du Brexit, puisque cette fois-ci, il titre en une CEU letter, le U c'est EU, une façon de dire à plus tard donc l'Europe. Et le journal insiste beaucoup sur la division hein, au sein de la Grande-Bretagne qui va rester en expliquant qu'il s'agit d'un soulèvement populaire massif contre les élites londoniennes.
Voilà, pour ceux qui nous écoutent à la radio et qui n'ont pas l'image, vous avez tort d'ailleurs parce que c'est une belle image en HD, c'est CEU later, donc EU pour European Union. Philippe Corderie.
Oui, mais c'est significatif d'ailleurs de ce que déjà certains élus conservateurs ont dit ce matin à la radio, c'est-à-dire que bon, finalement, la sortie, elle n'était pas si évidente et qu'il fallait discuter, renégocier. Non, ils ont voté.
C'est si
ils
later.
Ont voté. C'est pas later.
C'est bye bye, goodbye. Mmh. C'est si ou later. On se revoit après. On va se voir plus tard. Non, c'est fini. Dehors.
Et je pense que justement là-dessus, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, il va falloir avoir de la fermeté parce qu'on a des règles internes à l'Union européenne.
Jean Quatremer prend le see you later au mot. C'est parce que quand on dit au revoir, c'est à la revoyure et quand on pourrait dire au revoir, là c'est en l'occurrence c'est adieu.
Adieu. Donc, voilà, c'est vraiment un adieu qu'il aurait fallu dire. Et véritablement, je crois que quand on voit cette presse nationaliste exultée, ils ne se rendent pas compte de ce qui les attend. Je veux dire que les chambres de compensation en euros vont partir sur la zone euro. C'est deux fois le PIB mondial qui va quitter la City de Londres. Il va y avoir 80 000 pages d'acquis communautaires, de règlements et de directives qu'il va falloir transcrire au sein du droit britannique. Il va falloir renégocier 200 accords commerciaux, etc., etc. Ils sont partis, mais il n'y a pas d'autre mot, dans un bordel extraordinaire.
En fait, si on file la métaphore de Jean Quatremer, le brave type qui voulait quitter Bobo, parce qu'il ne voulait pas faire la vaisselle, finalement, il va se retrouver avec des tâches encore pires, il va avoir encore 10 fois plus de boulot.
Mais écoutez, quand vous installez tout seul, il faut racheter la vaisselle, il faut apprendre à faire la cuisine, mais c'est une horreur en réalité de quitter son conjoint.
Bien sûr.
Il faut s'en apercevoir.
C'est pas pratique.
Ah, c'est pas pratique. Et il faut plusieurs années avant de stabiliser
cette
situation.
Alors, après le Daily Mail et le Sun, Eric, les questions du Guardian, oui. Comment en est-on arrivé là?
Le Guardian plutôt qui penche de l'autre côté et qui s'interroge et qui explique, ben voilà, c'est des décennies d'euroscepticisme et de rébellion gouvernementale qui ont conduit la Grande-Bretagne à s'exclure elle-même d'une union que les électeurs n'ont jamais totalement accueilli à bras ouverts. Et le journal revient sur ce mot, un Brexit, qui avait été inventé donc en 2012, rappelle le journal, avant de devenir un courant politique majeur l'année dernière. Et donc il est passé du statut de niche obsessionnelle à celui de mouvement politique très large et victorieux.
Bon, maintenant, The Economist, avec une séparation tragique. The Economist qui voit dans le vote « an outpouring of fury against the establishment ». Je vous laisse traduire.
Oui, eh bien, c'est ce déferlement de rage contre l'élite, contre l'establishment, raconte le journal, de nombreux électeurs britanniques qui ont fait les frais des coupes budgétaires publiques et qui n'ont pas eu leur part du gâteau de la prospérité britannique sont tombés entre les mains d'un populisme agressif, explique l'hebdomadaire de Londres.
Vraiment, Jean. Excellente explication. Je crois que c'est fondamental. L'Europe, au fond, n'a été que, je dirais, la victime collatérale d'une révolte des classes oubliées de la croissance économique en Angleterre. C'est ça le drame.
Mais alors, en revanche, ce qui va être très intéressant à suivre...
dans la mondialisation...
Ce qui va être très intéressant à suivre dans les années à venir, c'est que maintenant, comme disent les Anglais,
who to blame. Ils vont reporter la faute sur qui quand ils ont un problème. Mais parce que jusqu'ici, c'était toujours c'est la faute à Bruxelles, c'est la faute à l'Europe. Maintenant, comment ?
Mais ça ne va pas changer d'un iota. Ah. Parce que pendant les négociations, ça va toujours être de notre faute. Après les négociations, ça va être de la faute de Bruxelles parce que on n'a pas été assez gentil avec eux et donc les difficultés économiques, ça sera nous. Et puis dans 10 ou 20 ans, c'est parce qu'il y a ce machin qui existe sur le continent européen qui fait que la Grande-Bretagne n'arrive pas à voler de ses propres ailes, de déployer ses ailes.
Alors maintenant, direction l'Italie, le Corriere della Sera déplore dans son édito le pire des choix.
Oui, l'éditorialiste explique « Nous en paierons tous les conséquences ». Et il explique que le Royaume-Uni n'est plus une grande puissance, c'est une puissance moyenne qui sait faire certaines choses très bien, parler anglais, vendre des services, naviguer, cultiver l'art, exporter de la musique et le foot, etc. Mais les problèmes de la planète sont trop vastes et complexes. Seuls les Anglais ne peuvent pas y arriver. Et alors l'éditorialiste termine avec un petit coup un peu dur. Le Royaume-Uni s'enfuit, ce qu'il n'a jamais fait. Il fait partie du club en claquant la porte et ça ne se fait pas.
J'aime beaucoup Eric Scholl, cet édito italien. Les Anglais, ils sont très bien, ils parlent bien anglais. Nick Hurst.
Mais oui, évidemment, et ça, c'est ça qui en plus qui démontre jusqu'à quel point les Anglais, les Britanniques, ils ont pas compris tout l'avantage qu'ils avaient à Bruxelles, parce que c'est vrai que maintenant, dans les institutions, en dépit de ce que dit Jean, très très souvent, on parle anglais. L'anglais, c'est partout. Et c'était vraiment un énorme avantage pour les fonctionnaires, pour les ministres, pour les consultants, pour
les entreprises,
pour les Américains, quand ils viennent ici en Europe, à Bruxelles, à Londres. Et tout ça, maintenant, on ne sait pas du tout ce que
justement, tiens, justement, Eric Scholl, justement, les Américains.
Les Américains, oui. Alors,
l'onde de choc mondiale, selon New York Times.
Écoutez, Anthony, c'est ça, il faut se rendre compte. Là, je vous donne juste quelques titres, mais il y a dans la presse mondiale des papiers, des articles, des opinions qui s'interrogent, qui essaient de comprendre ce qui se passe. Ça va de l'Ukraine en passant par Hong Kong, en passant par l'Amérique latine, et puis évidemment les États-Unis avec le New York Times qui est donc très surpris, et puis qui explique, ben voilà, la perte de la Grande-Bretagne est un énorme camouflet pour la crédibilité du bloc, le bloc européen, déjà sous pression à cause de la faible croissance, du chômage élevé, de la crise des migrants, des problèmes de la dette grecque ou du conflit en Ukraine, et en voiture, voilà.
Charles, tout de même, Charles, y avait quand même un précédent. Il y a le Groenland qui était sorti de l'Union européenne en 85.
On s'en rappelle.
Le Danemark s'en rappelle peut-être plus, mais bon, voilà. Merci beaucoup, Eric Scholl de Courrier International, pour cette revue de presse toujours inspirante. Merci beaucoup, Philippe Cordery, député socialiste à l'Assemblée nationale, d'avoir été parmi nous, franco-britannique. Merci, Charles de Marcy, de la Fondation Robert Schuman. Merci, Nick Hurst de Politico. À très bientôt. Vous êtes toujours très éclairant. Et puis, bon, faut pas perdre espoir. Vous avez réussi à sortir de l'Union européenne avec le Royaume-Uni. Bientôt, vous sortirez peut-être de l'Union européenne ou de la France avec la Corse. Hein. On rappelle que vous êtes anglo-corse. Merci Jean Quatremer. Là, vous, tout le monde espère que vous allez partir aussi de partout, en fait. Le Quatremer-Xit, ça, ce serait quand même une bénédiction pour tout le monde. Vous êtes franco-suédois ?
N'oubliez jamais ça, j'ai un bon côté.
Ça se voit. Bon, merci à tous. Merci à Alexandre Rougier qui a préparé cette émission. Merci aux équipes du Parlement européen qui l'ont mise en son et en image. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Parce que la semaine prochaine, il y a un sommet européen ici à Bruxelles sur le Brexit. Et on le débriefera ici, dans cette émission. À la semaine prochaine.
BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs.